On parle beaucoup, beaucoup du vaccin. On a hâte que le vaccin arrive parce qu'on dit que ça va être le début éventuellement d'un retour à la normale, même si, Jérôme, on s'entendra que le jour où on va confirmer un vaccin, ça ne sera pas du jour au lendemain. Là. Les pays devront l'obtenir, on devra exactement viser des populations particulières, des secteurs, bon, des tranches d'âge. Mais il me semble qu'on parle pas beaucoup de la possibilité d'avoir un médicament efficace qui éviterait peut-être la COVID d'être aussi virulente, d'être aussi destructrice.
Pour guérir, là.
Exactement, pour guérir. Donc, on pourrait choper la COVID, mais que ce soit moins difficile pour le système de santé, moins fatal, parce qu'on aurait un médicament qui pourrait nous aider à en guérir. Or, quand même, une certaine lueur d'espoir, hier après-midi, on a annoncé que l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, l'IUCPQ, va participer à un essai clinique qui va mettre en essai, si on veut, un médicament qui s'appelle l'ozanimod, un médicament qui, dit-on, pourrait s'avérer prometteur pour le traitement de la COVID-19. On va en parler avec le docteur David Marcellet, professeur titulaire à la Faculté de médecine de l'Université Laval. Monsieur Marcellet, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Alors, bien évidemment, première question, parlez-nous de l'ozanimod. Qu'est-ce que c'est, ce médicament-là?
Oui, bon, l'ozanimod, c'est un nouveau médicament. C'est dans la classe des immunomodulateurs. Ça a été récemment approuvé pour le traitement de la sclérose en plaques. Donc, c'est un médicament qui cible plusieurs aspects qui sont aggravants là dans la COVID-19. Et c'est pour ça qu'on a choisi d'étudier ce médicament-là dans le contexte actuel.
Bon, pour ce qui est d'un vaccin, on sait qu'il y a plusieurs étapes là, avant la commercialisation puis qu'on l'administre aux gens. Pour un médicament, comment ça fonctionne? Y a-t-il autant d'étapes? C'est quoi le délai puis les étapes à franchir?
Ben, c'est sûr qu'en contexte de la COVID, c'est spécial, là, mais simplement pour un médicament, disons, pour l'ozanimod, qui a été accepté pour la sclérose en plaques en mars aux États-Unis, puis ça vient tout juste d'être fait au Canada, ça s'échelonne sur une dizaine d'années, tu sais, peut-être même plus, là, dépendamment du médicament. Donc, au point de vue des essais, là, nous, on essaie d'améliorer la condition des gens qui sont très malades. Donc là, il y a des processus qui sont mis en place pour élaborer des protocoles, pour tester des molécules qui seraient susceptibles là, de faire des avancées pour le traitement de ces personnes-là avec qui on ne sait pas quoi faire finalement. Donc, c'est un processus qui implique des révisions par des experts dans notre domaine, un comité d'éthique, Santé Canada. Donc, c'est un processus qui est quand même assez rigoureux. Ça prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, mais là, on en est rendu là.
Je sais que c'est extrêmement complexe, mais si on essaie de faire un exercice de vulgarisation, qu'est-ce qui fait qu'un médicament destiné au traitement de la sclérose en plaques peut être vu comme étant un médicament qui va aider à éviter l'inflammation, qui va engendrer les troubles, le fonctionnement des poumons? Est-ce qu'on trouve ça par hasard? Est-ce qu'on réussit à trouver certains marqueurs? Comment ça fonctionne?
Oui, donc c'est sûr que c'est le fruit d'une longue réflexion. Là. Puis ce qu'il faut dire aussi, c'est que dans les cas des pneumonies là, qui sont sévères puis causées par des virus, là, c'est pas ça sort pas de nulle part d'essayer de calmer l'inflammation. Là. Ça, c'est des stratégies qui ont déjà été investiguées dans d'autres contextes, comme par exemple les pneumonies qui sont causées par le virus de l'influenza. Donc, puis ça, il y a une littérature qu'on a contribué à développer, donc moi-même personnellement, puis certains de mes collègues qui sont aux États-Unis, qui sont restés aux États-Unis, puis ici, on continue à travailler sur ce médicament-là dans le contexte d'autres maladies pulmonaires, mais pour mettre une histoire longue très courte, l'ozanimod va cibler des récepteurs qui sont sur nos vaisseaux sanguins et sur nos globules blancs. Et puis, on sait là, que les vaisseaux sanguins vont avoir une forme d'inflammation exagérée chez les patients qui ont une COVID-19, on va dire, compliquée. Donc, on sait que ce médicament-là va calmer l'inflammation ou l'activation des vaisseaux sanguins, puis aussi des globules blancs. Donc, c'est le fruit d'études qui ont été faites dans des modèles avec des cellules in vitro, ensuite dans des modèles précliniques chez le rongeur. Puis maintenant, on a les données des études cliniques chez l'humain dans la sclérose en plaques qui nous démontrent que le médicament est quand même assez, que le médicament est sécuritaire. Okay. Donc c'est comme ça qu'on se rend compte qu'on connecte les points pour établir un rationnel pour tester ce genre d'agent-là dans la situation actuelle.
Mais pour se comprendre de façon réaliste, à quel moment là, on pourrait penser que des patients atteints de la COVID pourraient se voir administrer ce médicament-là pour tenter de guérir?
Ben nous, on a déjà recruté 3 patients dans notre étude.
Oui.
Et puis, donc, au moment où on se parle, il y a des patients qui ont reçu ce médicament-là. Il y a aussi des patients qui recevaient cette classe de médicaments-là dans le contexte de leur maladie à eux. Donc, il y a des gens qui avaient la sclérose en plaques, qui étaient traités avec une molécule qui est l'ancêtre là, de l'ozanimod, on l'appelle le fingolimod, et puis qui ont eu la COVID-19. Donc, on pouvait aussi se fier à ces données-là. C'est sûr que c'est pas parfait. Là. Ce sont des données, des études rétrospectives. Il y a des biais de sélection, là. Mais ceci étant dit, ces gens-là évoluaient bien dans la maladie. Donc, il y a quand même des gens qui avaient été en contact avec le SARS-CoV-2 qui avaient ce médicament-là là, sous prescription.
Mais à grande échelle, là, je veux dire, à grande échelle, c'est en 2021 que ça pourrait être davantage utilisé sur des dizaines, des centaines de, ou des milliers de patients. Est-ce que tu réalises de penser ça?
Bon. Dans le contexte de nos travaux, c'est sûr que ces immunomodulateurs-là, nous, on les a vus dans le contexte. On a commencé à travailler là-dessus en 2005, là, dans le contexte d'influenza. Donc, l'optique de ça, c'est plus large. Donc, on se demande si on serait peut-être même pas capable d'éventuellement d'avoir une médication qui pourrait aider certains types plus élargis de pneumonie qui sont causées par des virus. Donc là, si on prend l'exemple de l'étude Solidarity qui testait plusieurs médicaments pour la COVID, donc ça fait 6 mois que ça roule. On a des données intérimaires en ce moment. Il y a des médicaments qui sont moins intéressants que d'autres, mais il y a d'autres études qui ont évolué rapidement, comme celle sur les corticostéroïdes. Et puis, donc, en quelques mois, on était capable de cibler certaines sous-populations qui étaient appropriées pour ce genre de traitement-là. Donc là, on parle d'une drogue qui est nouvelle pour une indication. C'est sûr qu'il y a des obstacles au point de vue de la commercialisation de ce nouveau médicament-là. Donc ça va dépendre aussi de la bonne volonté des gens qui détiennent les brevets. Ceci étant dit, nous, on veut compléter notre étude le plus rapidement possible, là, en l'espace de quelques mois. Et puis là, ben si les données sont encourageantes, on va pouvoir entrer dans une phase qui est pas préliminaire. Là. C'est une phase qui va être à grande échelle pour vraiment aller tester l'efficacité de ce médicament-là dans plusieurs populations. Et puis là, ben on parle d'années là, avant que ça soit un tel médicament soit donné chez une population élargie.
OK. Vous qui êtes habitué de travailler, de faire du travail de longue haleine, vous et vos collègues et vous, est-ce que vous vous donnez le droit d'être enthousiaste? Est-ce que vous demeurez toujours très, très, très prudent, très, très neutre ou le soir, vous vous dites, moi, je pense qu'on a quelque chose?
Ben, il y a des balises à l'intérieur desquelles on doit évoluer. C'est certain qu'on n'a pas choisi n'importe quel médicament dans n'importe quel contexte. Moi, je suis bien placé. Je connais très bien ce type de médicament-là parce que je suis un spécialiste. Ça fait 20 ans que je travaille avec cette classe de médicaments-là. Donc, c'est sûr que si on a inventé un devis pour tester ça chez des patients, une population qui est malade, c'est qu'on pense qu'on va aider ces gens-là. Donc, on a un enthousiasme par rapport au mécanisme d'action de cette stratégie-là. Ceci étant dit, où on doit mettre, une barrière, mais c'est dans le devis expérimental. Donc, ça prend des devis qui sont le plus rigoureux possible. Donc, une étude qui est prospective, qui est randomisée, éviter justement que notre enthousiasme brime là, la validité scientifique. Ouais. Mais effectivement, là, on ferait pas cette étude-là si, à la base, on pensait pas qu'il y avait un potentiel.
Question, je suis curieux comme ça. Est-ce que c'est un médicament qui est très coûteux, ça? Sais-tu de quoi ça a l'air là-dessus?
Ben ça, c'est une excellente question. La drogue est tellement nouvelle là, que les prix sont pas vraiment fixés. Là. Il y a les ancêtres de cette drogue-là qui dans la sclérose en plaques, là, je me rappelle plus exactement les prix, mais bon, c'est sûr que quand une drogue est mise sur le marché, son prix initial, ben, c'est un peu un remboursement pour toute la recherche et développement qui a été faite avant. Donc ça, il faut que ça se paye, il faut que les gens... bon, en tout cas, on pourra en parler à plusieurs niveaux, là. Mais bon, c'est ça, il faut que ça se fasse. Mais éventuellement, je pense que l'occasion est bonne en ce moment de faire ce genre d'études-là. Parce qu'à long terme, c'est sûr que le prix de ces médicaments-là va diminuer. Donc là, si on pense à très court terme, un coût-bénéfice, ben c'est peut-être qu'il y a pas, c'est pas logique, mais si on pense sur 20 ans, 30 ans, 40 ans, la population est vieillissante, on va avoir plus de facteurs de risque d'avoir des pneumonies sévères induites par des virus. On sait qu'un vaccin pour l'influenza, mais tu sais, ça prend un an. Bon, pour les SARS, pour les coronavirus, c'est plus long. Mais là, peut-être qu'on va être capable de diminuer le temps d'hospitalisation de ces gens-là, puis faire des économies, on va dire, d'échelle à ce niveau-là aussi, moins stresser notre personnel hospitalier. Donc, c'est un peu une façon aussi d'aplatir la courbe, là, si je peux emprunter l'expression.
On va vous souhaiter bonne chance pour la conduite de vos travaux. On va suivre ça avec beaucoup d'intérêt, M. Marcellet. Merci
Très
beaucoup.
Intéressant, ouais.
Merci beaucoup.
Merci. Au revoir, David Marcellet, donc professeur titulaire à la Faculté de médecine de l'Université Laval. Les gens qui posaient la question, on parlait de l'ozanimode, le médicament ozanimode. Un médicament d'abord destiné à traiter la sclérose en plaques, mais qui est vu comme un candidat avec un fort potentiel pour le traitement de la COVID-19.
C'est ça, c'est pas un vaccin.
C'est pas demain matin que ça va arriver.
Là. Non, ben c'est ça, c'est que lui nous parle d'années. T'sais, il nous a présenté une réponse tantôt, puis à la fin de la réponse, il dit c'est peut-être une question d'années avant qu'on puisse l'administrer à grande échelle. Puis ça, il y en a qui vont dire « Ah, ben là, ça prend des années ». Oui, mais c'est parce que la maladie, elle va être là encore pendant des années. Il n'y aura pas de disparition de la COVID-19 en 2021. D'après moi, même s'il y a un vaccin, le temps qu'on l'administre à une grande partie de la population, on parle d'années là, avec lesquelles on va devoir vivre avec cette maladie-là. Fait qu'il y a un intérêt clair pour ça.
Ben, si on a un peu d'espoir, hein? Juste d'avoir un peu d'espoir, ouais. Ça fait du bien. Le bilan, en attendant, le bilan quotidien qui vient de sortir, donc, comme on vous l'avait annoncé, là, un chiffre quand même plus faible qu'au cours des dernières journées, 877 nouveaux cas. On parle de 12 décès. Et je vous disais, il faudra surveiller les hospitalisations. C'est plus 33, le nombre d'hospitalisations. Et aux soins intensifs, plus 8.
Juste ajouter, Joe, concernant le médicament, là, parce que c'est intéressant. Tu sais, quand on parle de la grippe et de la COVID, là, ah, c'est rien qu'une grippe. Oui, mais pour certaines grippes, certains virus, il y a des médicaments. Là, il n'y a pas de médicament pour la COVID. Fait que quand il y a un médicament, c'est important d'en parler.
Ah oui.
C'est important de le souligner. Puis ça fait partie des grosses différences entre la COVID et la grippe. C'est que la grippe, tu peux avoir un meilleur contrôle. Un contrôle qui n'est pas parfait avec une vaccination, avec des antiviraux, médicaments, etc. Il existe des traitements. Là, il n'en existe pas des traitements. Et là, la grosse différence.
Exact, exact. Donc, on va suivre ça de près. Et vous avez les chiffres du bilan. On viendra peut-être avec la répartition régionale tantôt. Avant d'aller à la pause. Quand ton école est nommée dans les médias, l'école où tu as étudié, là, secondaire,
ça
primaire.
Ça m'est arrivé à se passer, moi,
ben oui, c'est ça. Tu as trouvé ça spécial. Tu sais, mettons, c'est l'université. Ben, il y a moins d'universités au Québec. Bon, certains ont un sentiment d'attachement plus profond, mais quand tu parles de ton école primaire, de ton école secondaire, tu sais, tu es comme, ah, c'est mon école.
Moi, c'était les sentiers à Charlebourg dans le devoir, front page.
Il en parlait pourquoi? Ah, c'était pour l'habillement.
L'habillement. OK. Ouais, le code vestimentaire.
Bon, ben, T'étais-tu fier un peu?
Écoute, c'est le temps intéressant. Là.
C'est ça. Bon, ce matin, j'étais en train de regarder la presse plus. Mmh. Et là, l'image, avant de voir le titre, l'image, je fais « Hein? C'est mon école secondaire, ça? »
Ouais.
C'est l'école cure Antoine Labelle à Laval. J'ai fait mon secondaire 4-5, puisqu'à Laval, on faisait secondaire 1-2-3 à Polygenèse, secondaire 4-5 à cure Antoine Labelle à Sainte-Rose. Et là, c'est mon école qui est dans le journal. Et là, finalement, je me rends compte que il n'y a pas de quoi être fier, là.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Il n'y a vraiment pas de quoi être fier. Regarde, tu l'as pas eu le texte?
Non.
OK,
non.
C'est débile. Je te dis, c'est débile. Quand on était jeune ou quand tu étais jeune, faire un mauvais coup à l'école, à la limite, c'était mettre une machine à pète sur sa chaise, un sac à pète, une bombe puante peut-être.
J'ai déjà pire. J'ai vu un cap d'acide dans un café une année. Là. C'était pas yaube, là.
OK, OK. Non, moi, je me souviens, là, mettons, notre prof en catéchèse, des gens trouvaient qu'il se dandinait beaucoup dans son bureau, fait qu'il avait mis de la craie sur le devant du bureau, fait que finalement, bon, il y avait des traces blanches sur le devant de ses pantalons. Des affaires de même. Mais là, on est dans le solidement intense. À l'école curé Antoine Labelle à Laval, il s'est installé une espèce de compétition entre les pairs et les impairs. Est-ce que tu sais ce que je veux dire par là?
Des numéros d'élèves ou quoi?
Non.
Ou non?
Qui va à l'école quel jour?
Ah, okay.
Parce que avec la nouvelle zone rouge, les étudiants au secondaire 4-5 vont à l'école une journée sur deux. Donc, au début, ça a commencé par des espèces de blagues, genre « Ah ouais, on est meilleur que vous », ça se passait sur Snapchat, sur Instagram. Et là, il y a des défis qui se sont mis à se lancer et des mauvais coups qui ont commencé à se faire. Mais c'est en train de totalement dégénéré. On parle entre autres de deux incendies qui ont été allumés à l'intérieur de l'école. au cours des derniers jours. On parle de 80 000 $ de dommages pour des salles d'ordinateurs qui ont été détruites. Des événements dangereux où on va prendre, par exemple, l'espèce de purelle qu'on va mettre dans les marches, quelqu'un qui s'est blessé, qui est parti en civière. Et là, ils sont de solidement l'échapper. Un jeune de 15 ans qui a été arrêté. Et ce qui était comme une espèce de petit concours, quelque chose de blague, est en train, là, vraiment, vraiment de dégénérer. Hey, sérieusement, je comprends que vous êtes ébranlés, les jeunes, par ce qui se passe, la pandémie, l'isolement, mais là, c'est parce qu'on parle d'incendie, on parle de possibilité de tuer du monde. Là.
C'est pire que les fresh contre les poêles dans le temps, là. C'est pire que les yo contre les preppy.
Ça, t'avais les fuckés, t'avais les yo, t'avais les skaters.
Tabarnouche, ça brasse. Es-tu au temple de la renommée de ton école secondaire, toi?
Au temple de la renommée.
Je suis au temple de la renommée de mon école secondaire.
Je crois pas qu'il y ait un temple de la renommée. Non.
J'ai été élu, puis moi, j'étais pas un très bon élève.
Mon Dieu, qui s'est pas rendu au temple de la renommée de ton école?
Ben, il y a nous autres à mon école, il y a Jean-Michel Anctil, il y a quelques comédiens aussi.
Oui, il y a Philippe Bande.
Philippe Bande, OK.
Oui.
Mais ils m'ont appelé genre 10-15 ans après que j'étais finissant, parce que quand j'ai fini l'école, ils n'auraient pas pu me mettre au temple de la renommée, j'étais de l'annonce. Mais quand j'ai commencé à travailler dans les médias, il est rendu dans les médias, fait qu'il m'a appelé. Puis quand j'ai été élu au temple de la renommée de mon école secondaire, il y avait une soirée de présentation, puis la grosse affaire, puis les robes chics, puis let's go.
Ben voyons donc.
Puis j'ai été présenté en même temps, je vais me souvenir de ça toute ma vie, là. J'ai été présenté en même temps qu'une médecin spécialiste en néonatologie, une médecin qui sauvait la vie d'enfants prématurés. Fait que là, il me présente, Jérôme Landry, journaliste, la TQS, ta. Puis là, après ça, il présente elle. Je peux-tu dire que j'étais comme gêné un peu de mon apport à la société, là? J'étais comme mal à l'aise un peu de ça, là.
Serait à voir. Parce que c'est Philippe Bande allait à même école.
Ouais. Ils t'ont pas élu encore, faudrait les appeler.
Non, mais j'ai pas été au retrouvailles il y a quelques années.
Moi non plus. C'est
quand.
Je pense
pas qu'on a un temple de la renommée, là.
T'as pas de temple de la renommée à ton école?
Non, mais je vois sur un tableau à quelque part où on souligne la part de la concentration de théâtre.
Concentration
en dramatique de l'école Curantois Labelle. J'étais en concentration en dramatique. Il y a un gars d'ailleurs qui pourrait être au temple de la renommée. Il était en concentration en dramatique. Il était 2 ans plus vieux que moi. Et le gars était maigre comme mon petit doigt, OK?
Ouais. Maigre comme moi, mettons.
Il avait joué dans la pièce Zone de Marcel Dubé. Il faisait le personnage de Tarzan. Mmh. Et quelques années plus tard, j'ai été très surpris de voir que le gars était rendu un lutteur. Mais... je me souviens plus de son nom. C'est sûr, s'il y a des gens qui connaissent la lutte québécoise, vous allez peut-être le replacer. Là. Le gars avait grossi, mon gars. Là. Tu vois qu'il n'y avait pas grand-chose de naturel là-dedans. Il avait le coulage comme un bumper de pick-up. Non, mais attends, laisse-moi finir. Il est devenu un personnage important de la lutte québécoise. Je trouvais ça bizarre. Coudonc, il a réussi. Et l'an passé, il a été arrêté dans une frappe anti-drogue ou je sais pas quoi. Finalement, c'est un de tout croche.
Tout croche, c'est ça.
Lui, je pense qu'il sera pas au temple de la renommée. Là.
Mais c'est drôle, j'ai remarqué ça. Il y en a quelques-uns, moi, qui étaient comme des genres de nerds, OK, quand j'étais jeune. Mais là, je regarde ça sur Facebook. Là, c'est rendu qu'ils vont...
gros.
Tu sais, c'est des gros bras, puis let's go. Puis c'est comme s'ils voulaient compenser pour le passé. Là.
Voilà. Mais en tout cas, faites attention. Sérieusement, là, je veux pas être moralisateur, là, mais mettre le feu pour relever des défis dans une école alors qu'il peut y avoir du monde, ça peut tout scraper. Je pense pas que c'est une bonne idée parce que le côté qui est beaucoup moins drôle là-dedans, c'est qu'il y a des élèves qui témoignent dans l'article de la presse qui disent « Moi, déjà, c'était devenu une expérience particulière d'aller à l'école avec les mesures sanitaires, la COVID, l'un jour sur deux, nos parents qui sont inquiets. » Là, il y en a une, elle disait « Ma mère, elle se demandait si elle devait aller me reconduire à l'école. Est-ce que vraiment, il y a un enjeu pour ma sécurité? En plus de la pandémie, y a-t-il un enjeu pour ma sécurité? Il faudrait peut-être se calmer. Pas trop fier de l'école, le curé Antoine Labelle. Il est 11h22. Vous écoutez Trudeau Landry, on revient.